On dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, vous êtes toujours sur les ondes de Radio-VM. Mon invité d'aujourd'hui est Sœur Gisèle Turcot, supérieure générale de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Elle évoque les 50 ans de la disparition de la fondatrice de cette œuvre, Marie Gérin-Lajoie. Instigatrice montréalaise majeure et incontournable du travail social au Québec, elle est décédée le 7 janvier 1971 à l'âge de 80 ans. Sœur Gisèle, bonjour.
Bonjour, Monsieur Trottier.
Merci de nous accorder.
De vous retrouver, oui.
Bon, on se retrouve de temps en temps. On œuvre un peu dans les mêmes milieux, vous et moi. Donc, merci de nous accorder cette entrevue longue sur Marie Gérin-Lajoie, dont on célèbre, dont on souligne les 50 ans de la disparition. Deux mots sur vous, Sœur Gisèle. Vous êtes une femme, votre bio vous décrit comme étant engagée dans l'Église catholique et pour les causes sociales. Vous cherchez à éveiller les consciences et à promouvoir des valeurs de paix, d'égalité et de justice. Avec ce programme-là, 24 heures par jour ne suffisent pas, non?
En effet, mais je ne fais pas ça toute seule. Je le fais toujours avec d'autres, avec les sœurs en communauté, avec un réseau d'antennes de paix, avec des réseaux de femmes en Église, comme Femmes et Ministère, et avec lequel je travaille depuis la fondation en 1982. Donc, c'est presque 40 ans. Mm-hmm. Alors, quand on est des filles de Marie Gérin-Lajoie, vous savez, il n'y a pas beaucoup de répit possible, parce que, comme aussi disait notre dame de l'époque, Mme Thérèse Casgrain, oui. Il y a tellement à faire.
Tout à fait. Hein. Vous êtes membre de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, de Montréal depuis 1958. Ça, c'est 13 ans avant le décès de Marie Gérin-Lajoie, donc que vous avez certainement bien connu, non?
Oui. Le premier jour de mon arrivée ici, on nous a annoncé la visite de la fondatrice. C'était une journée de prise d'habit, de profession. Alors, j'ai découvert tout de suite à ce moment-là d'avoir une personne que je ne pensais pas encore de ce monde. Une fondatrice, pour moi, c'était toujours quelqu'un qui était parti.
Ouais,
alors,
oui.
J'ai découvert tout de suite une personnalité très attachante. Elle s'est prêtée tout bonnement à nos questions de postulante là, sur les débuts de la communauté, sur sa vision des choses, et puis très aimable, discrète, une grande simplicité, vraiment attachante. Et puis, ensuite, c'est surtout par ses écrits que, puis en travaillant, par exemple, avec Hélène Pelletier-Baillargeon dans un comité de lecture qui l'accompagnait pour préparer la première biographie de Marie Gérin-Lajoie qui s'intitule, comme vous le savez, « De mère en fille, la cause des femmes ». Donc, ça a été publié en 85, précédé de quelques temps de travail. Ensuite, on a eu à préparer, comme communauté, j'étais pas nécessairement très proche, mais aussi l'histoire de l'Institut avec Marie-Paul Malouin.
Oui.
Mais aussi, je dois dire que ma découverte la plus significative dans mon histoire personnelle, c'est au chapitre de 1967, tout de suite après le Concile, quand on nous a demandé, dans les communautés, de retrouver nos racines. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a sorti le texte du projet de fondation que Marie Gérin-Lajoie, jeune fille, avait rédigé et remis à son directeur spirituel en 1917. Donc, ça veut dire qu'elle avait 27 ans quand elle arrivait à bien définir son projet de fondation auquel elle pensait depuis quelque temps. Donc, ce document, pour moi, a été comme une révélation. Alors ça, c'est vraiment important. Et puis, bon, à part ça, j'ai dans ses écrits qu'on fréquente depuis qu'on a pu avoir accès, il est publié par le recueil d'écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie en 2003. À ce moment-là, j'ai été dans l'équipe de préparation et là, j'ai pu être en contact avec celle que je portais à appeler un guide spirituel, vraiment. Alors, il y a tout ça dans ma petite histoire.
Sœur-Gisèle Turcot, supérieure générale de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, bonconseil.qc.ca pour ceux et celles qui veulent voir le site internet de cet institut. Vous nous parlez donc Marie Gérin-Lajoie qui est décédée il y a 50 ans et quelques jours, le 7 janvier 1971 à l'âge de 80 ans. Gérin-Lajoie, c'est quand même pas n'importe quel nom au Québec. Il y a toute une lignée, c'est une famille d'élite, non?
C'est ça. On dit que c'est une famille qui faisait partie de la petite bourgeoisie canadienne-française en émergence, là,
oui.
au tournant du siècle. Là. Ben, sa mère, qui porte le même nom, Marie-Gérard Lajoie, mais née de la famille Lacoste,
oui.
est une des 7 filles Lacoste qui se sont manifestées. On sait que Madame Gérard Lajoie, elle est la cofondatrice de du premier regroupement des associations de femmes ici, qui s'appelait à l'époque la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Hein?
Mm-hmm.
Alors, c'est en 1906-1907 là, que cette fédération a commencé à travailler. Donc, la jeune Marie a vu sa mère faire ce travail patient, laborieux, de regroupement des femmes pour qu'elles puissent faire avancer leur cause. Puis la première cause qui a été déterminante, ça a été d'obtenir l'ouverture de l'école d'enseignement supérieur pour jeunes filles au niveau du baccalauréat. Ce qui a fait que de 1908 à 1911, la jeune Marie, elle, a pu faire des études au baccalauréat chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Montréal et donc devenir ainsi la première titulaire d'un baccalauréat SR pour une jeune Canadienne-Française dans une institution canadienne-Française. Alors ça, ça date de 1911.
Et donc, alors, elle a 21 ans parce qu'elle est née, en fait, le 9 juin à Montréal, donc le 9 juin 1890.
Oui.
Sa mère, donc Marie-Jeanne Lajoie, dont vous avez parlé, Sœur Gisèle. Il y a également, si on remonte, il y a un grand-père paternel, Antoine Gérard Lajoie, qui a écrit des
oui.
livres, je pense, assez connus,
oui,
non?
Oui. C'est un auteur, c'est un écrivain, oui.
oui.
Un homme qui travaillait à la bibliothèque du gouvernement fédéral, mais qui a publié, on lui doit plusieurs choses, plusieurs écrits. Puis, il y a aussi dans les ancêtres Léon Gérin, qui se trouve
le sociologue.
Être le premier sociologue canadien-français, en effet. Je dis canadien-français parce qu'à l'époque, c'était comme ça, on ne parlait pas encore des Québécois.
C'est pas lui qui a écrit le type social et économique du Canadien français ou quelque chose comme ça?
Oui, probablement. Oui,
je
c'est
pense
ça.
Que oui, c'est le premier sociologue canadien français, en effet, oui.
C'est ça. Il était allé à Paris, à l'école de Frédéric Leplé, qui est un des bons sociologues de l'époque. Et puis, c'est de là qu'il a appris à faire des monographies. Et c'est comme ça aussi que Marie, notre fondatrice, va avoir reçu son influence. Puis quand elle va parler du travail social, elle va vouloir documenter des cas, justement, ou des situations. Alors, il y a cet héritage-là. Ça, c'est du côté Lacoste, du côté Gérard Lajoie. Il y a vraiment tout un héritage de grande valeur, oui.
Il y a aussi deux autres noms, Étienne Parent, qui est parmi les arrière-grands-parents, je pense. Il y a aussi Gérard Lajoie, la doctrine Paul Gérard Lajoie, c'est la même famille encore?
Tout à fait, c'est son neveu.
D'accord.
Disons, dans l'ADN des Gérard Lajoie, il y a ce grand souci de l'éducation, mais pour les individus, pour les personnes, mais aussi comme levier pour le développement du peuple canadien-français. Ça, c'est dans leur perspective. Alors, ça, c'est le rayonnement, le développement de la population à l'époque, parce qu'on était dans la période d'industrialisation, de passage du monde rural au monde urbain, tout le développement technologique aussi qui commençait. Alors, qui s'accélérait un peu. Donc, c'est ça. Elle a vécu dans cette ambiance où on se préoccupe des problèmes sociaux, pour les familles, pour les femmes, et donc c'est comme ça qu'elle va arriver tranquillement à vouloir fonder une communauté qui a cette vocation sociale précisément.
On y arrive à l'instant même, Sœur Gisèle Turcot, supérieure générale, pour la troisième fois, je pense, de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Vous nous parlez donc de Marie-Gérard Lajoie, décédée il y a 50 ans et quelques jours, le 7 janvier 1971, à l'âge de 80 ans. Marie-Gérard Lajoie, donc, est la première femme canadienne-française à avoir un bac en art d'une institution canadienne-française. Et elle a, si vous voulez, on est en 1911, je pense, elle doit avoir dans la jeune vingtaine, et là, elle va bifurquer vers le travail social, où elle est déjà, par son atavisme familial, consciente et sensible à l'égard de la situation des Canadiens français, et notamment des Canadiennes françaises.
En effet. Voyez-vous, dès qu'elle termine ses études, bon, il y a un espace, là, mais tout. En 1913, elle va commencer, on peut dire, une carrière de journaliste dans la mesure où elle devient la directrice et la rédactrice secrétaire aussi, rédactrice en chef de la, du bulletin que publie la Fédération nationale des Saint-Jean-Baptiste. Mm-hmm. Et donc, c'est un mensuel et ça devient un outil d'éducation, de sensibilisation des femmes à l'époque.
Alors, c'est la bonne parole?
C'est la bonne parole, exactement. C'est
le, d'accord.
Il y a eu d'autres petites publications, mais celle-là a duré assez longtemps. Donc, commence en 1913, elle va faire ce travail jusqu'en 1923. Mais il y avait aussi un autre volet de son engagement qui a commencé pendant ses études. C'est tout le développement des cercles d'études. Il y avait, vous savez, on compare souvent avec le côté masculin et féminin, et c'est nécessaire parce que à l'époque, il y avait les cercles d'études. Il y avait l'association aussi l'association catholique des jeunes canadiens, la CJC, qui était dans les cours des collèges classiques des garçons. Mais il n'y avait pas d'équivalent. Tout était nouveau du côté du collège classique pour les filles. Alors, en 1909, elle crée à l'école d'enseignement supérieur un premier cercle d'études pour des étudiantes, ses compagnes. Puis, elle va continuer ce travail après l'obtention de son baccalauréat, de sorte que, en multipliant les cercles, à un moment donné, en 1915, elle les regroupe et il y en a à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. Et là, elles vont jeter les bases d'une association qui prend le nom de Fédération des cercles d'études des Canadiennes françaises. Mm-hmm. Alors, elle va en assumer la présidence jusqu'au moment de la fondation de la communauté en 1923.
Son ambition à moyen et long terme pour les femmes, c'est quoi?
Elle constate l'importance de la formation intellectuelle pour les femmes.
Oui.
Puis aussi de l'éducation, parce qu'elle est très, hyper consciente de ce que font les femmes de la bourgeoisie, mais aussi des besoins de toutes les autres femmes. Toujours, cette famille-là, elle habitait au coin de la rue Sherbrooke et Saint-Laurent, du côté ouest.
Oui.
Je m'imagine facilement cette famille-là, et Marie en particulier, voir descendre toutes les femmes et les jeunes filles qui vont travailler aux manufactures du bas de la ville. Là. Voyez-vous,
oui.
on est sur la Maine, la rue Saint-Laurent, à Montréal, qui est au centre. Donc, elle voyait bien que ces femmes-là avaient pas commencé très, très jeunes à travailler dans les manufactures, et puis elles n'ont pas l'occasion de poursuivre des études. Donc, elle va vouloir équiper ces femmes-là, outiller les jeunes femmes, les jeunes filles et les mères de famille pour qu'elles aient, par exemple, des notions de psychologie, qu'elles aient des notions du bon savoir-faire, même en art culinaire et dans la gestion des budgets, dans la question de... Puis aussi, elle va aussi plus tard créer des œuvres qui vont essayer de tenir compte de la charge très lourde que les femmes ont, parce qu'on est encore dans des familles nombreuses, n'est-ce pas?
Effectivement.
Alors, donc, une vision pour la femme qui doit être excellente au foyer, excellente épouse aussi, mais aussi une citoyenne avertie, une citoyenne engagée. Donc, lui donner l'occasion de rencontrer d'autres femmes, de former des associations, de participer à la vie sociale. À la petite échelle, mais peut-être plus tard aussi à plus grande échelle. Alors, on a rencontré comme ça il y a des femmes qui sont de notre génération puis qui disent, moi, j'ai commencé comme participante à un club d'ados qu'on appelait les patros à l'époque, puis ils ont vu que j'avais du leadership, donc ils m'ont demandé de remplir telle responsabilité, d'être monitrice à tel terrain de jeu à Saint-Jérôme, etc. Donc, ça créait tout un mouvement d'ouverture aux questions, au milieu, aux autres, puis aussi de dévouement, puis de toutes les formes d'entraide qui ont été valorisées à travers ça. Donc, voilà.
Oui.
Peut-être que je m'égare un peu, là.
Non, pas du tout. C'est passionnant, Ben, vous avez connu Marie-Jeanne Lajoie en personne, donc ça, ce que vous dites, c'est précieux. Serge-Gisèle Turcot, vous êtes supérieure générale donc, de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Vous nous faites part vous nous dressez un portrait chronologique de Marie-Jeanne Lajoie décédée il y a un peu plus de 50 ans, donc à l'âge de 80 ans. C'était le 7 janvier 1971. Son action sociale en faveur des femmes, s'inspire. On est dans le sillage de Rerum Novarum, j'imagine. On est dans le sillage de certaines idées socialistes. Est-ce que tout cela va nourrir Marie-Jeanne Lajoie? On sait aussi qu'elle est inspirée par la spiritualité ignatienne des jésuites. Tout ça, Il y a tout cela est déjà bien articulé dans la tête de Marie-Gérin Lajoie, ou ça, ça s'élabore au fur et à mesure qu'elle prend conscience des problèmes de la société canadienne-française?
Bon, on va y aller par le volet social, pour commencer.
Allons-y.
Quelles sont ses influences? Bon, moi, j'en ai recueilli au moins trois. Mm-hmm. Et ça va se concrétiser par le fait qu'en 1913, donc juste avant la guerre de 14-18, elle a la chance d'aller en Europe avec une de ses tantes, et sa tante Antoinette Gérin-Lajoie, qui a aussi joué un rôle, mais dans la société. Mais alors, elle va découvrir en Angleterre la manière dont les professeurs d'université commencent à s'investir dans ce qu'on appelait les bas-fonds de Londres, là, vont s'en aller avec leurs étudiants, s'installer dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Ils vont créer ce qu'on appelle les settlements, university settlements.
Ah oui,
donc, oui, c'est ça. Elle est fascinée par cette formule, cette forme d'engagement des gens d'élite, on peut dire, mais auprès des plus pauvres, pour les aider à se prendre en main, pas simplement donner, faire des aumônes, mais travailler dans les quartiers. Alors ça, c'est de là qu'elle va prendre son idée des centres sociaux. On va avoir ça plus tard. La deuxième chose qu'elle explore quand elle va en France, la même année, 1913, ce sont les secrétariats sociaux qui sont dans différentes villes, alors qui ont des programmes d'abord d'hébergement pour les jeunes qui sont au travail, des formations complémentaires dont ils ont besoin pour progresser au plan des métiers, tout ça, mais aussi une ouverture pour une formation sociale quelconque. J'ai même trouvé un volume dans une bibliothèque qui raconte justement toute l'histoire des secrétariats sociaux, puis notre Madame Malouin, notre historienne, a pu établir un lien avec les programmes qu'elle a commencé à bâtir ici pour l'école d'action sociale qu'elle a ouverte en 1931. Ça, donc, les secrétariats sociaux en France, après les settlements en Angleterre. Mais aussi, une autre source d'influence pour elle, qui n'est pas du même ordre, mais en Belgique, elle a l'occasion de visiter des béguinages.
Oh Dieu!
Cette formule qui est de regroupement de femmes qui ne sont pas des religieuses, mais qui sont des femmes vivant avec une certaine autonomie personnelle, mais aussi en groupe, qui ont une vie spirituelle intense, qui sont autonomes financièrement et qui s'engagent dans le milieu. Dans son projet de fondation, Marie-Gérin Lajoie écrit « Peut-être que nos maisons pourront être entourées d'une forme de béguinage pour qu'on travaille tout ensemble avec des collaboratrices qui, de toute façon, ne viendraient jamais à la vie religieuse en commun et tout ça.
Ben »
Alors, donc, d'après moi, ce sont trois influences importantes qui ont marqué son parcours. Puis, comme c'est une femme qui, non seulement a des idées dans sa tête, mais qui passe à l'action, elle va incarner ça ici. La spiritualité ignatienne, oui, ça c'est essentiel. On va revenir à Rerum Novarum aussi. Vous savez que...
Il nous reste 9 minutes, Sœur Gisèle, je pense qu'on a, beaucoup de choses à raconter. Alors, allons-y avec la spiritualité ignatienne, Sœur Gisèle Turcot.
Oui. Elle est proche des jésuites dès jeune fille. Elle va faire l'expérience des exercices spirituels de Saint-Ignace. Elle va trouver que c'est une formule extraordinaire pour trouver la volonté de Dieu dans sa vie. Puis elle va proposer cette formule-là. Donc, quand elle veut fonder une communauté, il y a deux critères importants. C'est qu'elle ait l'aide des jésuites pour justement offrir à ses compagnes la spiritualité ignatienne. Et l'autre, que ce soit une vocation sociale. Alors, elle va réunir ces deux choses-là en 1923. C'est la date de la fondation de notre institut à Montréal, le 26 avril exactement. Donc, on s'approche du centenaire, justement, dans deux ans. Alors, cette fondation, ça va commencer humblement. On va se développer dans les villes alentour de Montréal, Valleyfield, Saint-Jérôme, Saint-Jean, et on va être au fond dans des milieux où il y a des villes ouvrières, où est-ce que les sœurs vont pouvoir offrir des services d'hébergement de jeunes travailleuses, à Drummondville aussi, développer des camps de vacances ou des œuvres de terrain de jeu, parce que c'est pas encore organisé dans les localités. La première œuvre qu'elle crée aussi plus officiellement, 1931, c'est donc l'école d'action sociale pour travailler à la formation des auxiliaires sociaux, comme on les appelle à l'époque, mm-hmm. et puis ça deviendra maintenant les travailleurs sociaux ou qui vont. C'est son programme qui va devenir l'ouverture vers le programme universitaire de formation en service social, mais mm-hmm. aussi c'est ce programme-là qui va s'installer dans les cégeps comme technique de travail social.
Serge Le Turcot, donc vous nous parlez de Marie Gérin-Lajoie, décédée il y a un peu plus de 50 ans et quelques jours, le 7 janvier 1971. Elle fonde donc l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil en 1923. Elle va le diriger jusqu'en 1956, je pense, non?
En effet, oui, tout à fait. C'est ça. Elle a été supérieure générale depuis la fondation. Puis oui. À ce moment-là, d'autres vont prendre la relève, puis elle va être à la retraite. Elle va commencer à recueillir ses souvenirs. On lui demande ça. Moi, je l'ai connue un peu à cette époque-là. Puis, oui, parce que j'habitais dans la maison où elle était retirée, notre maison du boulevard Saint-Joseph, sur le plateau Mont-Royal. Donc, chaque semaine, on pouvait aller prendre un repas à la même table qu'elle. Et puis, comme elle avait une très bonne mémoire des choses anciennes, moi, j'aimais ça lui poser des questions, évidemment, sur tout ce qu'elle évidemment. Avait fait, puis ce qu'elle pensait. Puis, alors, c'était vraiment toujours très, très, très agréable. On avait justement un institut familial à cet endroit, et on a eu trois instituts familiaux, Montréal, Sherbrooke, Saint-Jérôme, ont des jardins d'enfants, dans le domaine de l'éducation aussi. Il n'y a pas eu seulement des centres sociaux, là.
Ça fait un tout chez Marie Gérin-Lajoie. J'ai pas l'impression qu'il y a des tous les lièvres qu'elle courait, pardonnez-moi l'expression, mais étaient liés par une même laisse, je veux dire par une même logique. Il y avait le même souci d'un développement intégral, non?
Oui. Puis comme la famille Gérin-Lajoie en général, le souci de la justice, hein, ça faut pas l'oublier. Elle qui était d'une famille privilégiée. Oui. Elle était très sensible au fait des différences sociales, des disparités sociales. Et alors, elle a d'abord créé une communauté où il y a seulement une classe de sœurs. À l'époque, c'était nouveau. Aujourd'hui, ça va de soi, mais il n'y a pas des sœurs tourières puis des sœurs qui sont plus professionnelles. Non, tout le monde met la main à la pâte. Elle-même met la main à la pâte. Et puis, donc, la question de la justice, mais c'est dans la foulée aussi de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste pour travailler sur les conditions sociales des femmes, les droits civils et politiques. C'est qu'on dit, faut travailler à la justice, mais aussi par la charité.
Oui, c'est pas l'un ou l'autre. Hein?
Non, c'est ça. Et Marie Gérin-Lajoie cite souvent la phrase de Sainte Catherine de Sienne, hein, au cœur de la charité est la perle de la justice. Ce sont inséparables, les deux. Et puis, peut-être qu'on aime moins le mot charité de nos jours, mais c'est cette chaleur qui vient autour de la justice pour être beaucoup plus créative, pour être plus imaginative, pour, demander que les droits soient respectés, mais aussi fournir les moyens de les assumer puis de les exercer. On a beau avoir le droit à l'éducation, mais si on n'a pas les conditions pour être en mesure de bien en profiter, on sait ce que ça peut donner. Alors, puis toujours un regard positif. D'ailleurs, comme thème de la commémoration du 50e anniversaire, nous avons pris une phrase de Marie Gérin-Lajoie qui dit « Il faut marcher du pas allègre de la confiance ».
En effet, dès qu'on se met à douter, on freine.
C'est ça. C'est une fois qu'on a bien vu ce qu'il y a à faire, Marie Gérin-Lajoie nous dit « Ben là, oui, on avance, on passe à l'action et c'est dans la foi qu'on le fait, parce que c'est une femme de grande foi ». Elle a eu des épreuves aussi dans la gestion de la communauté. Il y a eu parfois des revers dans une action ou une mission ou l'autre. Mais je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner avant la fin, puisque ça tire à sa fin.
Alors, 3 minutes.
Oui, on a quand même eu un appel imprévu pour aller travailler d'abord avec les immigrants. En 1947-48, Montréal se développait, accueillait des immigrants, des Européens qui venaient de la guerre là, en Europe. Alors, depuis ce temps-là, c'est l'œuvre qui dure le plus longtemps, le Centre social d'aide aux immigrants, qui est encore en opération à Montréal et qui fonctionne très, très bien. où on n'a plus de sœur d'ailleurs.
Et c'est pour le quoi, elle a reçu une, elle avait reçu une, à titre posthume, la Croix d'or du mérite
oui.
à cause de l'aide aux immigrants,
oui,
non?
C'est ça, c'est ça. Puis on est allé aussi, on a eu un appel en 48 pour aller en mission à Cuba. Elle n'avait jamais imaginé que nous, que de faire des sœurs du Québec pour aller à Cuba. Mais elle a discerné, c'est une femme de discernement toujours. Donc, elle a discerné, oui, on va y aller. 4 mois après, il y avait 4 sœurs qui partaient. Puis on a été là pendant 50 ans, jusqu'en 1998. Donc, on a connu avant Fidel Castro, après Fidel Castro. Et puis, l'autre mission qu'on a développée, mais depuis plus récemment, 1988, c'est en Haïti. À Jacmel, la très belle région de Jacmel, au sud de l'île. Oui. Alors, on a maintenant, ce sont des Haïtiens et des Haïtiennes qui sont là. Je ne sais pas si vous entendez parler parfois du groupe Femmes décidées, mais elles sont là, elles continuent, elles ont formé. Elles sont justement à travailler beaucoup, beaucoup avec les femmes dans la région pour les habiliter au plan économique, au plan de l'éducation, au plan de la socialisation, au plan de la santé aussi. Elles travaillent contre la violence et tout. Ah, c'est vraiment beau ce qui se fait là-bas.
Sœur Gisèle, pour terminer, il y a une phrase qu'elle aimait répéter, « Soulager ne suffit pas, il faut transformer ». Ça résume un peu tout l'être de Marie-Jeanne Lajoie, non?
Tout à fait, parce que il a donné, mais il a donné les moyens d'eux aussi.
Exactement, voilà.
Puis c'est pas, elle avait une vision des problèmes sociaux qui font que ça dépend pas seulement des individus qui n'ont pas ce qu'il faut. Des fois, c'est la société qui n'offre pas les moyens.
Sœur Gisèle Turcot, supérieur général de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, www.bonconseil.qc.ca. Vous nous parliez de Marie-Laure Gérin-Lajoie, instigatrice montréalaise majeure et incontournable du travail social au Québec, décédée le 7 janvier 1971. À l'âge de 80 ans, elle avait fondé l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal en 1923. Merci beaucoup.
Ben c'est moi qui vous remercie.
Et à une prochaine.
Merci.
Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Troquier qui vous dit merci et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.